L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, le recul du gouvernement suisse sur la politique migratoire. En Belgique, on verra comment des casseurs ont profité du mouvement des Gilets jaunes pour semer la violence. Au programme encore, plusieurs coups durs pour les minorités francophones de l'Ontario. L'Afrique qui ambitionne un retour des œuvres d'art exposées de façon permanente dans les musées français. Et puis en France, une nouvelle proposition de loi pour en finir avec les fessées et autres châtiments corporels que peuvent subir les enfants. Voilà pour l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Marie-Pierre Olfan pour RFI, c'est une première. Un ressortissant centrafricain a été extradé à la Cour pénale internationale. Il s'agit de l'ancien chef de guerre, Alfred Yekatom Rombo.
Oui, cet ancien chef de milice d'autodéfense, âgé de 43 ans, a été transféré à La Haye il y a une semaine. Sa première comparution a eu lieu ce vendredi. La CPI l'a réclamé à la Centrafrique pour sa responsabilité présumée dans des crimes de guerre tels que des meurtres, tortures et mutilations, des exactions commises entre décembre 2013 et août 2014 à Bangui et dans le sud-ouest du pays. Au moment des faits, celui qui est aussi surnommé Rambo commandait un groupe de 3000 hommes avant d'être élu ensuite député il y a 2 ans. Une fonction qui a précipité sa chute puisque c'est après avoir sorti une arme dans l'hémicycle qu'il a été arrêté au mois d'octobre.
En France, la chute d'un grand patron de l'automobile, Carlos Ghosn, a été placé en garde à vue au Japon, ce qui lui a d'ailleurs déjà valu de perdre sa fonction de président du conseil d'administration du groupe Nissan. Cela dit, il reste pour l'instant toujours le PDG du groupe Renault. Carlos Ghosn a été arrêté au Japon, soupçonné d'avoir dissimulé une partie de ses revenus dans ce pays. Sa garde à vue à Tokyo pourrait durer plusieurs semaines et dans des conditions, semble-t-il, assez dur. En Belgique, Nathalie De Vic, c'est le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte qui ont focalisé toutes les attentions.
Et cela faisait 47 ans qu'un président français n'était plus venu en visite d'État chez son voisin belge. À l'époque, c'était Pompidou. Alors, pourquoi maintenant? Eh bien, sans doute d'abord pour approfondir les bonnes relations dans une Europe tourmentée par le Brexit et la montée des populismes. Soutenir aussi le pacte migratoire de l'ONU, rejeté par les nationalistes belges. Signer dans la foulée quelques accords économiques. Et puis découvrir un autre visage culturel de Molenbeek, cette commune bruxelloise présentée comme un nid de terroristes après les attentats de Paris. Rencontrer enfin quelques-uns des 300 000 Français vivant chez nous. La France, première communauté étrangère dans le plat pays qui est le nôtre.
On s'intéresse maintenant au sort du procureur général de la Confédération helvétique. Il avait été mis en cause au début du mois dans l'affaire dite des Football Leaks. Eh bien, Pierre Anchoffa, il a désormais contre-attaqué cette semaine.
Oui, après les révélation des médias internationaux, Michael Lauber s'est justifié devant la presse. Il a réfuté toute complaisance à l'égard de la FIFA. Ses rencontres informelles secrètes avec Gianni Infantino, le patron de la Fédération internationale de football, sont selon lui normales dans le cadre d'enquêtes aussi complexes. Rappelons que depuis les arrestations survenues en 2015 à Zurich, le ministère public mène pas moins de 25 procédures au sein de la FIFA pour des soupçons de corruption. Certains s'étonnent tout de même de cette offensive médiatique alors que l'autorité de surveillance n'a pas rendu son rapport sur les méthodes de Michael Lauber.
Benoît Audet au Canada, c'est un skieur alpin que vous avez choisi comme personnalité de la semaine.
Oui, Éric Gay, un skieur de 37 ans qui vient d'annoncer sa retraite après une longue carrière sur la scène internationale. Le skieur québécois est monté sur le podium à 25 reprises en Coupe du Monde. Il a aussi remporté 2 titres de champion du monde. Éric Gay a décidé qu'il était temps pour lui de mettre un terme à sa brillante carrière.
La Suisse ne signera pas le pacte de l'ONU sur les migrations, du moins pas pour l'instant. Cédant aux pressions parlementaires, le gouvernement a donc provisoirement reculé, Pierre Anchoffa.
Oui, si en Belgique, les nationalistes flamands n'ont à ce stade pas réussi à faire basculer le gouvernement dans le camp du refus, les souverainistes de l'UDC ont déjà obtenu en Suisse une victoire d'étape. Le ministre des Affaires étrangères ne se rendra finalement pas à Marrakech pour signer ce pacte non contraignant sur les migrations. Le gouvernement avait pourtant informé le Parlement il y a 1 mois que la Suisse allait adhérer à ses déclarations d'intention internationale pour mieux ordonner les migrations.
Et qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis?
Eh bien, le Conseil fédéral assure qu'il y tient toujours, mais qu'il veut se donner du temps, ne pas brusquer le Parlement. Il y a là derrière un conflit de pouvoir entre l'exécutif et le législatif sur les compétences en matière de politique internationale. Un conflit qui se fait sur le dos du pacte migratoire et de la crédibilité de la Suisse. Suisse, selon le président du Parti socialiste, Christian Levrat.
Il correspond en tout point à la politique migratoire de la Suisse. Donc on est dans quelque chose qui est identifié comme Suisse au niveau global. On est en train de porter un coup dur à notre crédibilité. Enfin, les gens que nous sommes amenés à rencontrer à l'international se posent de plus en plus de questions sur la ligne politique qui est celle de la Suisse, sur sa fiabilité et sur la prévisibilité de sa politique extérieure.
L'UDC, de son côté, assure avoir ainsi écarté le risque de voir le pacte migratoire primer sur la gestion indépendante par la Suisse de son immigration. Un discours qui résonne évidemment avec la votation de ce dimanche sur les juges étrangers.
En Belgique, Nathalie De Vic, comme en France, des casseurs ont profité du mouvement des Gilets jaunes pour semer la violence.
Oui, ce mouvement parti justement de France le week-end dernier pour protester à la base contre les hausses de prix des carburants a fait des émules en Belgique où la protestation s'est étendue plus largement aux baisses de pouvoir d'achat et à une précarité croissante. Le mouvement avait commencé dans le calme chez nous jusqu'au moment où des casseurs se sont invités parmi les Gilets jaunes qui bloquaient les raffineries et les dépôts pétroliers. Plusieurs centaines de casseurs masqués. Ils s'en sont pris aux policiers, copieusement caillassés, et aux médias qui couvraient l'événement. Journalistes blessés, véhicules incendiés, un déchaînement de violence gratuite, unanimement condamné, dont se sont d'ailleurs dissociés les Gilets jaunes. Écoutez le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclerc.
On n'est plus dans l'infiltration non plus des Gilets jaunes, parce que les premières nuits, les gens s'immisçaient, s'infiltraient pour pouvoir, en mettant un gilet jaune, en arriver à casser ou à mettre le feu. Non, c'est plus ça. C'est ici, maintenant, de l'extrémisme, de la violence. On ne sait pas trop pourquoi, sans mobile apparent.
Une violence, et ça c'est nouveau, nourrie et relayée par les réseaux sociaux, suivie en direct par des dizaines de milliers d'internautes, rejoints ensuite par des centaines de milliers d'autres sur Facebook. Une médiatisation 2.0 qui a attisé encore plus les passions et d'autant plus difficile à endiguer. Plusieurs auteurs de ces attaques et dégradations sont connus des services de police. Certains ont été interpellés, mais beaucoup se sont évaporés dans la nature. Les Gilets jaunes, eux, ont tout bonnement l'impression qu'on leur a volé leur contestation, du moins son esprit de départ. Beaucoup se sont retirés, dégoûtés par la tournure des événements.
Gros plan à présent sur le sort de la minorité francophone de l'Ontario. Le gouvernement de la province a décidé non seulement de mettre un terme au projet d'université francophone, mais il a aussi annoncé la transformation du poste de commissaire au service en français. Benoît Audet, ce sont là deux coups durs pour les francophones de la province.
Oui, le projet d'université à Toronto était souhaité depuis longtemps. Quant au poste de commissaire au service en français, il sera transféré au sein des services de l'Ombudsman de la province. On craint donc une perte de poids et d'influence pour les francophones. Le gouvernement de l'Ontario dit que la province enregistre d'importants déficits et que tous doivent faire des efforts. Voici la ministre de la Justice de l'Ontario, Caroline Mulroney, qui parle de la mort du projet d'université francophone.
On a été élus avec un mandat. Donc, on allait être transparent avec la population ontarienne. Et malheureusement, ça veut dire qu'on doit regarder les Franco-ontariens dans les yeux puis leur dire « nous n'avons pas l'argent pour financer ce projet important maintenant ».
Et Benoît Audet, ces annonces ont donc provoqué une levée de boucliers chez les Franco-ontariens, mais aussi ailleurs au Canada.
Oui, ils ont promis de livrer bataille. Ils avaient dû le faire à la fin des années 90, les Franco-Ontariens, quand le gouvernement de l'époque avait annoncé la fermeture du seul hôpital francophone de l'Ontario. Ils avaient fini par gagner à la suite d'une longue bataille judiciaire. Le premier ministre du Québec, François Legault, a lui rencontré son homologue ontarien cette semaine à ce sujet. Il lui a rappelé ses obligations. Écoutons François Legault.
Au Québec, on a trois universités anglophones, McGill, Concordia puis Bishop. Et donc, on doit tous faire des efforts pour s'assurer qu'on donne des services à nos minorités.
Pour le moment, malgré le concert de critiques, le gouvernement de l'Ontario n'a pas l'intention de reculer.
Les œuvres d'art africaines exposées en France de façon permanente vont-elles devoir retourner sur le continent africain? Eh bien, la question se pose, Marie-Pierre Olfand, depuis la parution vendredi d'un rapport réclamé par le président français.
Oui, ce rapport a été écrit par deux experts mandatés par Emmanuel Macron, Felwyn Sarr et Bénédicte Savoie. Le philosophe sénégalais et l'historienne de l'art ont été chargés de définir les conditions de ces éventuelles restitutions. Résultat, ils préconisent de modifier la loi française pour permettre le retour en Afrique de milliers chefs-d'œuvre sous forme de restitution permanente et non pas temporaire, un concept qui leur paraît ambigu. Leur rapport est aussi une source de documentation précieuse. Il dresse la liste d'environ 90 000 objets que les colons ont rapportés d'Afrique entre 1885 et 1960. Seraient concernés les biens pillés, volés, les butins de guerre, mais aussi les objets acquis à des prix dérisoires par des marchands ou des missionnaires. Le texte est plutôt favorable aux pays africains, à la condition qu'ils effectuent une démarche volontaire pour récupérer les œuvres exposées dans les musées français.
Marie-Pierre, ce rapport suscite de nombreuses interrogations, et notamment celle de savoir si les pays africains concernés seraient prêts à s'organiser pour récupérer et protéger ces œuvres.
C'est l'inquiétude de certains conservateurs français en tout cas, mais aussi de juristes et d'experts qui dénoncent un rapport inapplicable aux conséquences potentiellement dramatiques pour les œuvres d'art. Des voix jugées condescendantes par tous ceux qui, au contraire, revendiquent le droit des pays africains à gérer leur patrimoine comme ils l'entendent. La balle est maintenant dans le camp du président Macron, qui devra trancher cette question délicate qui provoque déjà un vif débat.
En France, c'est un débat politique qui fait régulièrement surface. Comment légiférer sur la fessée donnée aux enfants? Le sujet avait été supprimé l'an dernier de la toute nouvelle loi Égalité et Citoyenneté. Et bien voilà que 29 députés français remettent le dossier au jour en déposant une proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires. La France fait partie des derniers pays européens à n'avoir voté aucun texte interdisant non pas la petite tape mesurée sur les fesses, mais bien les violences faites aux enfants sous couvert de fessées devenant des châtiments corporels. Et bien cette fois, la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a bien l'intention de soutenir ce texte.
Quand aujourd'hui une famille maltraite un enfant et qu'un voisin veut intervenir, et bien la famille va dire « mais j'éduque mon enfant comme je veux. Oui. » Eh bien non, en fait, on ne bat pas un enfant. Et si je veux un jour qu'on ait une réaction collective efficace face aux violences faites aux enfants, qui aboutissent, je le rappelle quand même, à un mort tous les 5 jours dans les familles, hein, eh bien si on veut pouvoir intervenir, il faut qu'à un moment on dise « on n'éduque pas un enfant en le battant ».
Alors la nouvelle proposition de loi veut surtout sensibiliser les familles. Dès le mariage, par exemple, quelques mots pourraient être lus en mairie au moment de se passer la bague au doigt. Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.